Bonjour à tous et à toutes. Nous allons parler cet après-midi d'élections. Nous vivons dans un pays, la France, où il y a toujours des élections, à tous les niveaux. Vous savez que, quel que soit le métier que vous exercez, quel que soit l'endroit où vous vivez, il y a toujours des élections. Alors bien sûr, je ne vais pas vous parler de ces élections-là, mais c'est pour dire que nous avons à tous les niveaux des élections. Si vous êtes en politique, vous avez l'élection présidentielle, vous avez les élections législatives, vous avez les élections sénatoriales, si vous êtes, vous avez les élections municipales, et j'en passe. Si vous travaillez dans une entreprise, il y a des élections au comité, je pense, syndical, ou des élections syndicales. Si vous êtes membre d'une association, il y a des élections pour les membres du bureau. Si vous êtes sociétaire dans une société d'assurance ou autre, mutuelle, il y a des élections au comité, aussi directeur. Et on pourrait continuer. Si vous êtes élève dans une école, vous avez les élections, je pense, des délégués de classe. Et si vous êtes parent d'élève, vous avez les élections au comité de parents d'élèves. On pourrait continuer. Si vous êtes membre d'une église, il y a de temps en temps une élection au bureau de l'église. Et si vous êtes pasteur, là nous ne sommes pas très nombreux dans ce cas, il y a au niveau pastoral des élections au bureau de la région, bureau national, etc. La vie est rythmée par ces élections. Mais vous savez que dans la Bible, il y a eu aussi parfois des élections. Qu'est-ce qu'une élection ? Une élection, c'est un choix. En général, dans les sociétés humaines, un certain nombre de gens vont voter pour des candidats. Et un de ces candidats, dans les élections majeures, sera élu. Dans la Bible, nous avons des exemples d'élections, de choix. Par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 6, nous lisons qu'à un certain moment, il y a eu une petite discussion un petit peu animée dans l'église, la première église, parce que certaines veuves d'origine étrangère, d'origine grecque, étaient un petit peu délaissées au profit des veuves d'origine juive. J'allais dire c'est un peu normal puisque nous étions, cela se passait en Israël. Alors les responsables, les apôtres ont pris une décision sage, ils ont dit vous allez choisir vous-même, ils ont dit ça à tous les chrétiens de l'église de Jérusalem, vous allez choisir vous-même 7 hommes qui seront chargés de distribuer la nourriture aux tables en toute justice. Et alors il est dit que dans la Bible que les chrétiens ont choisi 7 hommes qui seraient chargés de cela. Bien sûr, le choix parfois n'est pas une. L'élection parfois met en scène une seule personne, et nous allons en arriver à cette élection dont le texte des Éphésiens nous parle. Nous voyons par exemple que Moïse, à un certain moment, sur les conseils de son beau-père, a nommé des anciens pour s'occuper de l'administration du peuple d'Israël qui auparavant reposait sur ses seules épaules. Nous avons un autre exemple, et nous en parlerons tout à l'heure, c'est l'élection de la reine Esther, ou plutôt l'élection de la jeune juive qui s'appelait Esther, au rang de nouvelle reine du pays. Nous en parlerons tout à l'heure parce que ces récits contiennent des éléments très importants pour parler de ce qu'est véritablement une élection. Vous avez remarqué avec moi que lorsqu'un homme ou une femme est élu à une position importante, le jour ou le soir de son élection, cet homme ou cette femme se présente devant tous ceux qui ont voté pour lui ou pour elle en levant les bras, comme si elle avait remporté la victoire de sa vie. Et pourtant, cet homme ou cette femme n'a pas remporté, par exemple, le marathon des Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de football. Je veux dire, parce que quand vous gagnez une telle victoire, remportez une telle victoire sportive, vous pouvez même dire « Maintenant que j'ai gagné, je suis arrivé au but, je vais prendre ma retraite. » Il n'en est pas de même de la personne qui vient d'être élue. Même si elle lève les bras comme si elle avait remporté la victoire de sa vie, en vérité, tout commence maintenant qu'elle a été élue. On raconte qu'un ancien président de la République, lors de son élection, se serait tourné vers ses plus proches collaborateurs et leur aurait dit « Maintenant, mes amis, c'est vraiment maintenant que les ennuis vont commencer. » C'était une certaine conception de la réalité. Parce qu'en vérité, lorsqu'on est élu à un poste, tout ne fait que commencer. Je dis cela parce que dans la Bible, nous avons lu tout à l'heure que Dieu nous a élus, au verset 4. En lui, en Christ, Dieu nous a élus pour quelque chose. Toute élection comporte une responsabilité. Toute élection sous-entend une responsabilité. Une élection, c'est le début de quelque chose. Ce n'est pas une victoire. Et ce l'est d'autant moins dans l'élection qui nous intéresse maintenant. Dieu nous a élus, et vous savez que même si on peut, le jour où on réalise que Dieu nous a élus, c'est-à-dire que Dieu a commencé par nous sauver, on peut lever les bras, mais on ne peut pas dire « j'ai gagné ». Parce que c'est Dieu qui a gagné. C'est Jésus qui a remporté la victoire. En nous sauvant, en donnant sa vie pour nous, Jésus a remporté la plus grande et aussi peut-être la plus douloureuse, la plus bouleversante des victoires, puisqu'elle a été acquise au prix de son sang et de sa vie. Nous avons été élus par Dieu. Dieu nous a choisis. C'est là que nous voyons que l'élection chez Dieu, avec Dieu, est le contraire de toutes les élections. En général, beaucoup de gens votent pour une personne et l'élisent. Mais avec Dieu, c'est une personne qui choisit beaucoup de gens. Dieu a élu, Dieu a choisi, Dieu a sauvé une multitude d'êtres humains simplement par amour. Alors, comme je viens de le dire, comme le pensent parfois certains, l'élection, tout d'abord, implique une responsabilité. Quand on est élu à un poste, quel qu'il soit, on endosse une responsabilité. Et l'élection dont nous avons fait l'objet par Dieu ne fait pas exception. Dieu ne nous a pas choisis, je m'entends, Dieu nous a choisis dans le sens où il nous a sauvés. Et c'est lorsque nous acceptons le salut de Dieu pour nous-mêmes que nous réalisons pleinement que nous avons été élus. Dieu ne nous a pas choisis pour que nous fassions de la figuration. Parfois, certains se comportent comme si le fait d'être sauvé par Dieu, le fait de recevoir le don de la vie éternelle, c'était l'aboutissement. Maintenant, je suis sauvé, je suis tranquille. Peu importe ce que je vais faire maintenant, Dieu m'a sauvé, je suis tranquille. Non, vous connaissez cette maxime, sauvé pour servir. Il y a une grande vérité là-dedans. L'élection dont nous avons fait l'objet nous donne une certaine responsabilité. Vous savez que quand Jésus a parlé à ses disciples et aux chrétiens qui étaient là autour de lui pendant son ministère sur terre, Jésus a donné beaucoup d'instructions. Il a employé beaucoup de verbes à l'impératif. Il a dit par exemple « ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». C'est un programme. Il a dit, par exemple, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Plus tard, il a dit « Allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Ça aussi, c'était une partie du programme. Et puis, il a dit aussi d'enseigner toutes les nations, d'enseigner à toutes les nations ce qu'il avait lui-même enseigné. La vie chrétienne, qui est le fruit d'une élection, nous avons été choisis par Dieu, tous ceux qui croient en Jésus sont choisis par Dieu pour le représenter sur cette terre. Paul disait lui-même, nous faisons la fonction d'ambassadeur de Christ sur la terre. Tout cela nous montre, tous ces textes nous montrent que être choisi par Dieu, être élu par Dieu, c'est tout un programme. Lorsque nous lisons l'Épître aux Éphésiens, nous nous rendons compte que Paul explique pourquoi nous sommes sauvés, pourquoi nous avons été élus. D'abord, nous l'avons lu, c'est un petit peu avant dans le texte, voilà, c'est en bas. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, c'est-à-dire irréprochables devant lui. Le premier but de notre élection, c'est que nous soyons des croyants irréprochable. C'est difficile d'être saint et irréprochable. Quelqu'un dira, mais être saint, c'est très difficile. Être saint, c'est pratiquement impossible. Être irréprochable, c'est pratiquement impossible. C'est vrai, mais cependant, il est écrit, Dieu nous a élus, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche. L'idée n'est pas nouvelle. Dans l'Ancien Testament, nous lisons que d'autres hommes ont été considérés comme étant saints et irréprochables. Nous lisons par exemple dans la Genèse au chapitre 6 au verset 9 que Dieu dit à Noé qu'il doit marcher devant lui et être intègre. Nous lisons dans Genèse 6, 9 que Noé était un homme juste et intègre à son époque. Noé marchait avec Dieu. Et quand il est dit Noé était un homme juste et intègre, que nous avons traduit en français par intègre, en hébreu c'est le mot parfait. Noé était juste et parfait. Bon, Dieu ne s'arrête pas à tous les petits détails. Mais Dieu, lorsque nous marchons avec lui sérieusement, lorsque nous cherchons à lui plaire, lorsque nous le faisons passer en premier, Dieu considère que d'une certaine manière, nous sommes parfaits parce que nous marchons exactement de la manière dont il le veut. Un peu plus loin, nous lisons dans la Genèse toujours, un autre texte dans Genèse chapitre 17, verset 1er, où il nous est dit « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. » Marche devant moi et sois parfait. Dieu s'attend à cela. Dieu s'attend à notre perfection. Et même si nous avons l'impression d'être souvent encore imparfaits, eh bien, Dieu veut nous aider à nous perfectionner, comme on le dit. En fait, comment devenir parfait aux yeux de Dieu? C'est tout simple. La Bible dit que Noé, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, qui lui a dit de construire une arche, en prévision du déluge qui approchait, Dieu a parlé à Noé, et Noé, nous est-il dit, a été saisi d'une crainte respectueuse. Dans une version plus moderne de la Bible, il est dit, quand Noé a entendu la voix de Dieu qui lui disait de construire une arche, Noé a pris Dieu au sérieux. Et je crois que c'est une bonne expression. Noé a pris Dieu au sérieux. Craindre Dieu, ce n'est pas trembler toujours devant lui. Ce n'est pas chaque fois qu'on lit la Bible de trembler, dire « Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, je suis imparfait ». Non. Être saisi d'une crainte respectueuse vis-à-vis de Dieu, comme Noé, qui était un homme intègre ou parfait aux yeux de Dieu, c'est tout simplement prendre Dieu au sérieux. Considérer que Dieu est vraiment ce qu'il dit qu'il est dans la Bible. Considérer que quand Dieu parle dans la Bible, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous donne des promesses et lorsqu'il nous donne des ordres, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, par exemple, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Vous savez que juger les autres, c'est une chose très facile et très courante et c'est vraiment quelque chose, permettez-moi l'expression populaire, c'est quelque chose qui nous colle à la peau. L'être humain a une forte tendance à juger les autres dans toutes sortes de domaines. Le problème, c'est que souvent, on juge les autres sans trop les connaître, ou même si on les connaît, sans trop connaître les conditions dans lesquelles ils ont fait telle ou telle chose, ou ils ont dit telle ou telle chose. Quand Jésus dit, par exemple, « Ne jugez pas, sous-entendu les autres, et vous ne serez pas jugés », il veut dire par là que nous pouvons vivre en ne jugeant pas les autres. Comment cela? Eh bien, en prenant tout simplement la parole de Jésus au sérieux. En considérant que cette parole, elle a une valeur très grande. Elle est supérieure à la parole de tous les hommes. Quand Dieu parle, c'est le Dieu de l'univers qui parle. C'est le Dieu non seulement qui nous a créés, mais c'est aussi le Dieu qui tient notre avenir entre ses mains. C'est le Dieu qui contrôle l'univers. C'est le Dieu qui dirige toutes choses. Noé a été saisi de cette crainte respectueuse Et le mot respect, le mot crainte respectueuse est meilleur que le mot terreur. Certains ont la terreur de Dieu. Il y a des gens qui, dès que quelque chose de grave leur arrive, se jettent à genoux et implorent Dieu, alors que le reste de leur vie, ils vivent sans trop penser à Dieu, c'est-à-dire sans le prendre au sérieux. Abraham, tout au long de sa vie, n'a pas été un homme parfait, dans le sens pur du terme. Mais toute sa vie, il a respecté Dieu et il a pris ce que Dieu lui disait au sérieux. Parfois, ça a été un petit peu difficile. Parfois, il a pris quelques libertés. Par exemple, le jour où il est descendu en Égypte parce qu'il y avait la famine en Israël, il nous a dit que, comme sa femme était très belle et qu'il avait peur qu'on la prenne, il a dit « ce n'est pas ma femme », il a dit « c'est ma sœur ». Comme ça, il s'est dit « on ne me gênera pas, on ne m'embêtera pas ». Et puis, vous savez ce qui s'est passé ? Le roi local, le roi de la région où ils étaient partis se réfugier à cause de la famine, a pris sa femme avec lui et il a découvert plus tard que ça. Alors il a fait le reproche à Abraham et Abraham lui a dit « c'est vrai que quelque part c'est ma sœur aussi parce que nous avons des ancêtres communs, hein, c'était sa femme, mais pas, c'était sa sœur mais pas vraiment sa sœur, c'était d'abord, par-dessus tout, sa femme. » Mais il a joué sur les mots. Mais bon, Dieu l'a pardonné et Abraham a repris le bon chemin. Lorsque Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice, Abraham a respecté Dieu. Il a craint Dieu parce qu'il était en train de devenir un peu plus parfait. Il a craint Dieu. Il a progressé. Et alors, il a offert son fils en se disant, de toute façon, même si je l'offre et qu'il meurt, Dieu le ressuscitera. Parce qu'il avait pris Dieu au sérieux. Il avait pris la parole de Dieu au sérieux. Il y a un texte, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'Ancien Testament qui nous parle d'une manière très forte de ce qu'est la responsabilité. C'est l'histoire de la reine Esther. Je l'ai dit, Esther était une jeune femme d'origine juive. Elle avait été élevée parce qu'elle était orpheline par son cousin Mardoché, qui devait sans doute être plus âgé que lui. Et un jour, il y a eu, je ne sais pas si on pourrait dire, un concours de Miss Suse, la ville où elle habitait. C'était la ville où il y avait un grand souverain, un roi qui s'appelait Xerxès, ou Assuérus, un roi qui venait de se fâcher avec sa femme, parce que sa femme n'avait pas voulu lui obéir. Et en ce temps-là, une femme ne devait absolument pas refuser de faire ce que son mari voulait. Mais cette femme, qui s'appelait la reine Vasti, avait refusé d'obéir à son mari parce que son mari était, comme on dit, bien éméché. Il avait bien bu, il avait fait une grande fête avec ses amis, ses collaborateurs, et comme il n'était plus tout à fait lucide, il lui avait donné un ordre et Vasti, la reine, avait refusé cet ordre parce que son mari n'était pas tout à fait lucide. Mais le roi s'est fâché, pour cela il était lucide, et il a renvoyé la reine. Et alors vous savez qu'il y a eu un concours, allez, on va dire Miss Suse. Le roi s'est dit, je veux choisir la plus belle jeune femme du pays pour qu'elle remplace ma femme que j'ai chassée. Et vous savez comment la jeune juive Esther, a été choisie par le roi. Elle s'est donc retrouvée du jour au lendemain élue à un poste fastueux, somptueux. Elle est devenue la reine d'un des plus puissants rois de la planète. Du jour au lendemain, sa vie a changé. Elle n'a plus mangé des sandwichs ou des hamburgers, mais du caviar, du foie gras et toute autre chose, les choses les meilleures du pays. Mais voilà. Comme nous le disions tout à l'heure, si nous sommes élus, c'est toujours pour une raison. C'est jamais pour vivre une vie plus fastueuse et plus facile. Même dans la vie chrétienne, il en est ainsi, et surtout dans la vie chrétienne. Vous savez que peu de temps après, le premier ministre du pays a voulu exterminer tous les Juifs. Et le cousin d'Esther, Mardoché, est allé trouver Esther. Lui, il avait déjà pensé à tout. Quand la persécution est venue, Mardoché s'est dit tout de suite quelque chose. Nous avons au palais, auprès du roi, qui est encore plus puissant que le premier ministre, nous avons quelqu'un qui est de notre race et qui peut intervenir pour nous. Et il y a ces paroles extraordinaires de Mardoché à sa cousine Esther, alors qu'elle vivait dans le faste du palais et que peut-être elle se disait « Bon, après tout, je suis une pauvre orpheline, Dieu est bon, Dieu est juste, même aux pauvres, Dieu fait des cadeaux des fois, des bénédictions extraordinaires, et aujourd'hui je suis dans le palais avec l'homme le plus riche du pays, après tout c'est justice, il y a un juste retour des choses. » Peut-être que Esther était en train de s'endormir sur ses lauriers, sur cette bénédiction d'une vie nouvelle. Alors Mardochée lui a dit, ne te imagine pas que tu vas être la seule à échapper d'entre tous les Juifs, sous-entendu qui vont peut-être périr, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, donc si tu n'interviens pas, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et il ajoute, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine. En d'autres termes, tu as été élue, tu as été choisie, mais Dieu ne fait rien au hasard. Quand Dieu fait une chose, c'est toujours dans un but précis. Il nous a élus, Éphésiens 1:4, pour que nous soyons saints et irréprochable devant lui. Et plus loin dans la parole de Dieu, Jésus dit, « Je vous ai choisi, c'est dans Jean 15:17, « Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accorde. » J'aimerais m'arrêter pour terminer sur ce deuxième texte, Jean 15:17. Nous avons été choisis, comme dit Jésus à ses disciples, pour porter du fruit. Nous avons été choisis pour porter un fruit durable. Parce que ce n'est que si nous portons ce fruit que le monde saura que nous sommes enfants de Dieu. Et ce n'est qu'ainsi que le monde verra que lorsqu'on croit en Christ, on devient quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vit une vie glorieuse grâce à Dieu. Dieu veut que le monde voit dans les chrétiens le genre de vie qu'il veut offrir à tout le monde. Le fruit que nous devons porter, quel est-il? Quand nous sommes sauvés, Dieu met en nous son esprit. Et son esprit nous donne une vie nouvelle, une vie qui n'a rien à voir avec celle que nous vivions auparavant. Le fruit qui découle naturellement de notre nouvelle nature. C'est peut-être, bien sûr, le fruit de l'esprit, comme Paul disait, le fruit de l'esprit, puisque l'esprit habite en nous, il va porter son propre fruit en nous. Et ce fruit, c'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la tempérance, la fidélité, la foi, la bonté, la bienveillance et la maîtrise de soi, dit Paul dans Galates 5:22. Ce fruit-là, c'est le fruit naturel, ou plutôt le fruit surnaturel, que l'Esprit de Dieu porte en nous, puisqu'il habite en nous. Mais Jésus va plus loin. Dans ce même texte de Jean, chapitre 15, verset 15, Jésus dit ceci, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Cela, c'est quoi? C'est la prière. Pour Jésus, l'un des fruits que nous devons porter, en dehors de ce fruit de l'esprit, qui est notre nouveau caractère, notre nouvelle nature intérieure, qui doit s'épanouir et être visible aux yeux de tous, le fruit qui découle de notre nouvelle communion avec Dieu, c'est aussi la prière. La prière, Jésus dit, « Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » La prière est surtout l'exaucement de la prière. Un chrétien dont les prières sont régulièrement exaucées porte du bon fruit. Un chrétien qui prierait toujours mais ne serait jamais exaucé n'encouragerait pas les autres à venir à Dieu, à venir à Christ. Le grand prédicateur du XIXe siècle, Charles Finney, avant sa conversion, allait régulièrement dans une église de sa région, de son quartier, et là, il y avait beaucoup de femmes âgées et d'hommes âgés qui priaient lors des réunions de prière. Et Charles Finney écoutait ces prières, puis repartait chez lui. Et un jour qu'il quittait la réunion de prière, comme d'habitude, il n'était pas encore converti, une femme âgée s'est approchée de lui et lui a dit « Jeune homme, est-ce que vous n'avez pas des requêtes de prière pour lesquelles vous voudriez que nous prions ?» Alors Charles Finney s'est tourné vers elle et le plus gentiment du monde, il lui a dit « « Oh oui, madame, j'en aurais bien. Mais depuis que je suis chez vous, dans cette église, je vous entends tout le temps prier et je n'ai jamais entendu qu'une seule prière avait été exaucée. Et c'est ça le bon problème. » Un chrétien dont les prières ne seraient jamais exaucées ne pourrait pas être un modèle. Il ne pourrait pas donner envie aux autres de devenir chrétiens. Mais au contraire, un chrétien dont les prières seraient régulièrement exaucées serait un modèle qui donnerait envie aux autres de venir à Dieu. C'est pourquoi Jésus dit « Il faut que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donne. » Des prières exaucées régulièrement montrent, prouvent que nous sommes en communion avec Dieu. Et cela peut donner envie aux autres. Nous avons été choisis, je termine par cela, comme dit Paul à plusieurs reprises dans ce texte, pour servir à la louange de sa gloire. Si nous portons le fruit de l'esprit, les différentes caractéristiques, l'amour, la paix, la joie, que j'ai mentionné tout à l'heure, selon Galates 5, 22. Et si nous vivons une vie avec des prières qui sont régulièrement exaucées par Dieu, nous serons de vraies pierres vivantes, comme disait l'apôtre Pierre. Nous serons de véritables témoins du fait que Dieu est vivant, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous donnerons envie aux autres de découvrir Dieu, de découvrir Christ, par le moyen de sa parole. Que son nom soit béni.